السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، on s'arrêtait la dernière fois dans la vie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم au rôle qu'ont joué les femmes de Médine sur le champ de bataille. Donc, on a expliqué que lorsqu'il va y avoir la confusion dans le champ de bataille et que la tendance elle va se retourner et que la victoire se transforme en une défaite pour les musulmans, et qu'il y a la rumeur qui se propage sur le champ de bataille, la rumeur qui dit que le prophète Hassan aurait été tué, on a un groupe de compagnons qui fuient. Et qui certains, pour certains, il y en a qui fuient sur la montagne de Uhud, qui se réfugient sur la montagne de Uhud, d'autres qui retournent à Médine. Et donc évidemment, ils amènent avec eux à Médine cette mauvaise nouvelle, cette information, cette rumeur, comme quoi le prophète sallam aurait été tué sur le champ de bataille. Et ils ramènent aussi d'autres informations qui, elles, ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des faits, comme on dirait aujourd'hui, ce sont une réalité, comme le fait, par exemple, que les musulmans sont en train de perdre la bataille. Ala kulli hal, nous, on avait déjà parlé du rôle des femmes dans cette bataille, mais du côté idolâtre. Si vous vous rappelez bien, on avait expliqué que les idolâtres s'étaient fait accompagner d'un groupe de femmes. Le chef, celle qui était à la tête de ces femmes, c'était Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan, radiallahu anha, puisque plus tard elle se convertira à l'islam. Mais à cette époque-là, elle était idolâtre et elle vient pour venger son père, son frère et son oncle qui ont été tués dans les défis de Badr. Parce qu'on avait expliqué que les Arabes de l'époque, quand ils faisaient les batailles, généralement ils commençaient par les défis, par les duels. On dirait aujourd'hui les tête-à-tête, les VS. Yeah. Non. Avant ils le faisaient parce que c'était entre guillemets deux tribus qui devaient se battre. C'était pour défendre certaines causes, justes ou injustes. Aujourd'hui, il y a des paris, il y a le, comment ils appellent ça, MMA. Si j'ai bien compris, l'objectif de la chose, c'est de se faire le plus mal possible, tous les coups sont permis, et les gens, ils attendent ça avec impatience. C'est ça qui est incroyable. Les gens, ils aiment regarder ça. Ils aiment voir que des gens gratuitement, enfin gratuitement pour nous, mais pour eux, il y a sûrement un enjeu derrière. Mais ils aiment regardez, faut regarder. Ils sont impatients de voir la prochaine fois qui va se faire amocher par l'autre. Gharib. Ça dit l'état auquel nous sommes arrivés, et qu'il y a énormément de choses à corriger et à réparer dans notre tête. Wallahu a'lam. Je vais m'arrêter là. Je dois normalement m'occuper juste de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et laisser le reste aux autres. Ala kulli hal. On avait expliqué que les femmes idolâtres, elles jouaient un rôle. Elles étaient venues avec leur rime et tout ça. Hein, donc, on avait déjà parlé de ça. Et là, On s'était attaché à parler du rôle des femmes médinoises. On a dit qu'il y a des femmes médinoises qui vont arriver pendant la défaite parce qu'elles vont être paniquées par les informations qu'elles entendent à Médine. À un tel point que il faut s'imaginer que ce sont des femmes qui entendent, c'est la catastrophe. Le professeur Hassan a été tué. Pour elles, elles ne savent pas que c'est juste une rumeur. Elles pensent que c'est vrai. On leur ramène ça. C'est des gens qui étaient sur le champ de bataille qui viennent, qui leur disent « Le prince Hassan a été tué. Les musulmans sont en train de perdre. Ils sont tous tués les uns après les autres. » Et il y a un groupe de femmes, qu'est-ce qu'elles font? Au lieu de se cacher chez elles ou de fuir même, elles prennent les armes et elles vont sur le champ de bataille. Et on a cité en particulier, parce qu'on a un texte qui la cite, Ummu Ayman, une des nourrices du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Ayman, quand elle va voir ces hommes arriver qui disent c'est fini, c'est perdu, le professeur Hassan a été tué et on ne sait pas ce qu'ils vont faire maintenant, peut-être qu'ils vont venir nous attaquer ici à Médine. Qu'est-ce qu'elle dit Ummu Ayman? Hakal mirzal farzil wa halumma sayfak. Tiens, le rouet, on avait expliqué qu'elle proposait, elle leur donnait l'instrument qu'elle utilisait pour filer la laine de coton, pour en faire des fils, pour ensuite c'est utilisé pour la couture. Et entre guillemets, à l'époque, c'était un travail de femme. Quand elle leur disait, tiens, prends le rouet, va coudre, Yarni, et donne-moi ton épée. Je vais te montrer comment on doit faire. Et Ummu Ayman, elle va venir sur le champ de bataille, on avait expliqué qu'elle va être gravement blessée, puisqu'elle va s'interposer pour défendre le professeur Salem au moment où quelqu'un va essayer de porter un coup. C'est Ibn Khami'a qui va réussir même à blesser le professeur Salem, mais d'abord elle va s'interposer Ummu Ayman et elle va recevoir une grave blessure à l'épaule comme on avait expliqué. Ça c'est Nusayba bint Ka'b, afwan. En tout cas Ummu Ayman elle aussi elle va venir sur le champ de bataille et donc elle carrément elle arrive au moment où c'est la défaite, au moment où on est censé avoir peur. Mais on a expliqué qu'il y a aussi des femmes qui ont accompagné l'armée dès le début. Alors il y a celles qui ont accompagné l'armée dès le début. Dès que l'armée de Uhud part, l'armée des musulmans part pour Uhud, il y a déjà des femmes dans l'armée. Elles sont utilisées pourquoi? Pourquoi elles viennent ces femmes? C'est pour abreuver les combattants et pour soigner les blessés. On a cité par exemple Aïcha radiallahu anha. Aïcha, dans un hadith, on dit que Aïcha, accompagnée d'Ummu Sulaym, la mère de Anas ibn Malik, font partie des femmes qui sont parties à Uhud dès le début pour soigner les blessés, abreuver les blessés, leur servir de l'eau, etc. Et on a cité également cette femme connue, Nusaybatu bint Ka'b, radiallahu anha, qui elle n'est pas arrivée en même temps que l'armée au tout début, mais elle n'arrive pas non plus après au moment de la défaite, au moment où il va y avoir la rumeur, la panique. Elle décrit dans le texte qui nous a rapporté d'elle, même si on a expliqué qu'il n'a pas été authentifié ce texte, elle explique dans ce texte qu'elle est arrivée le matin. Donc après que l'armée s'est installée, elle arrive juste après. Et elle dit au moment où j'arrive, les musulmans sont en train de gagner la bataille. Et elle se met pas loin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle est là au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être pris en étau, il va tomber dans le fameux trou qui avait été creusé comme un piège par Abu Aham al-Fasir, qu'on l'avait déjà expliqué en détail, je ne reviens pas là-dessus. Mais en tout cas, Nusaybah bint Ka'b, c'est elle en réalité qui va s'interposer à Ibn Qami'a et qui va recevoir une grave blessure à l'épaule, comme on l'avait expliqué, même si le texte n'a pas été authentifié, comme on l'a déjà expliqué. Donc on a cité Ummu Ayman, on a cité Nusaybah bint Ka'b radiyallahu anha, on a cité Aisha radiyallahu anha, on a cité Ummu Sulaym, on a cité Hamnatu bint Jahsh, qui est la sœur de Abdullah ibn Jahsh. Et on avait expliqué que Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu, lui aussi il meurt, c'est son frère, il meurt à Uhud. Et lui il avait clairement fait une dua pour pouvoir mourir sur le champ de bataille de Uhud. On avait même expliqué que son corps il va être mutilé, mais ça de toute façon on va en parler encore en détail sur ce que les idolâtres feront malheureusement subir après la mort au corps des compagnons qui vont tomber en martyr sur le champ de bataille de Uhud. Et on a cité également la médinoise Ummu Salit. Ummu Salit, c'est tout simplement la mère du célèbre compagnon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Elle aussi, elle est sur le champ de bataille de Uhud, elle soigne les blessés, etc. Et on avait également cité Fatima, radiyallahu anha, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui elle va même participer à essayer de soigner les blessures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle expliquera qu'elle versera de l'eau sur les plaies que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues. Donc nous, on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu plusieurs blessures. Une à la tête, son casque va être déformé. Aux joues, puisque les pointes de son casque, quand le casque va être déformé par les coups qu'il va recevoir, ça va faire rentrer les pointes de son casque dans ses joues, donc ça va créer des plaies. Il va être frappé ici à la lèvre, il va perdre une incisive latérale, il va recevoir un coup à l'épaule également, il va être blessé à l'épaule et au genou. Non. Et il y a même certains textes qui décrivent une blessure au front. Le prophète Hassan a reçu toutes ses blessures et il saigne. Et Fatima radiallahu anha vient pour le soigner. Et elle dit qu'elle verse de l'eau pour essayer de nettoyer la plaie, sauf que plus elle verse de l'eau et plus le sang coule. Donc elle va finalement prendre des pailles d'un tapis, les tapis qui sont faits avec de la paille séchée. Elle va prendre de ces pailles-là, elle va les brûler pour cicatriser les plaies du prophète sallam pour qu'elles arrêtent de saigner. Non. Fatima radiyallahu anha. Ala kulli hal. Donc tout ça, ça nous fait parler de qui? Ça nous fait parler de ces femmes qui, pour certaines, sont arrivées dès le début avec le prophète sallam pour être au service des combattants. Certaines qui arrivent par la suite, comme Nusayba bint Ka'b radiyallahu anha, et d'autres qui, au moment où on va et on tente de leur faire peur, au final, avec ces rumeurs et ce qui se passe, au contraire, elles n'ont pas peur et elles se rendent sur le champ de bataille. Et elles sont concernées justement par le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » Ceux à qui on dira, alors justement ce verset, les exégèses divergent, est-ce qu'il a été révélé pour la bataille de Uhud ou pour la bataille des tranchées, la bataille des coalisés? On en reparlera probablement au moment de la bataille des tranchées. Il y a des savants qui disent qu'elle a été révélée pour cette bataille de Uhud. Il y en a, quand la nouvelle arrive à Uhud, quand la nouvelle arrive à Médine, on leur dit il y a une grande armée qui sort de la Mecque, ils viennent pour vous décimer, pour se venger de Badr. Cette information, elle ne fait pas plaisir et elle est censée terroriser les musulmans de Médine. Une grande armée qui s'avance vers nous. Et Allah Azza wa Jal décrit les compagnons les plus fervents. Il dit الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ. Ceux à qui les gens diront الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ. Les gens se sont rassemblés contre vous pour en finir avec vous. Fakhshawhum. Alors ayez peur. Fazadahum imana. Et au contraire, leur foi l'a augmenté. Quand ils ont entendu ça, leur foi l'a augmenté. On parle de qui? On parle par exemple de Hamza ibn Abd al-Muttalib. On parle par exemple de ces femmes qui ont rejoint le champ de bataille au moment où on vient leur dire attention, regardez ce qui s'est passé. Nous, on avait dit que au tout début, au moment où le professeur Hassan va consulter les compagnons, quand il va avoir cette information, il consulte les compagnons, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette armée, elle arrive, on ne peut pas la retenir. Soit on sort pour aller à sa rencontre, à leur rencontre sur le chemin et les combattre à l'extérieur de Médine, soit on combat à l'intérieur de Médine, on les laisse arriver à Médine pour se défendre dans Médine. Le professeur Hassan était d'avis qu'il reste à Médine. Pourquoi? Parce qu'il disait, ils sont trop nombreux pour nous. Et en étant réfugiés dans la ville, il y a les murs qui nous protégeront. Et on connaît mieux la ville qu'eux. Donc on peut se cacher dans des endroits, leur faire des embuscades, etc. Alors qu'aller dans le désert et aller face à face, c'est un gros risque pour l'armée. Et ensuite, si on perd, ils auront la ville de Médine à leur merci. Donc le meilleur moyen de préserver les civils de la ville, c'est peut-être justement de les laisser arriver jusqu'en ville et de bien défendre, de mettre les civils à l'abri et de bien défendre la ville avec les murs, avec, etc. Et qui était de cet avis également? L'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Mais lui, il était de cet avis, pas parce qu'il pensait que c'était la meilleure solution, mais il était de cet avis parce que il ne veut pas combattre. Et donc, en étant caché dans la ville, il pourra toujours prétendre qu'il a combattu, qu'il a fait des embuscades, mais personne ne l'a vu, et donc il n'a de compte à rendre à personne. Alors que si l'armée, elle sort à l'extérieur, ben soit il sort avec tout le monde, soit il n'y va pas. Et s'il n'y va pas, il faut qu'il trouve une bonne excuse. Parce que tout le monde était déjà suspicieux à son égard, tout le monde comprenait qu'il jouait un double jeu. Alors que les autres compagnons, comme Abu Bakr Siddiq, comme Omar, comme Hamza, ils vont dire « Ya Rasulallah ». Ils sont venus jusque-là, et nous, on va se cacher dans la ville de Médine. Allons leur montrer de quel bout on se chauffe. Allons à leur rencontre. Et le professeur Hassan va finalement se ranger du côté de la vie de la majorité des compagnons, et la majorité des compagnons, ils veulent aller à leur rencontre. Et c'est d'eux qu'Allah Azzawajal parle dans ce verset, quand s'il a été révélé pour Uhud, puisqu'il y a divergence entre les exégèses, entre Uhud et l'Ahzab. « Alladhina » قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا. Ceux à qui les gens ont dit. C'est qui les gens? Ici, c'est certains savants disent c'est les hypocrites qui sont venus, parce que c'est les hypocrites qui leur ont dit attention, ils arrivent, ayez peur. فخشواهم. Les personnes qui leur disent, ils leur disent ça, ils leur disent pour avoir peur. Donc, et ici, c'est une parenthèse qu'on ouvre, mais c'est une faïda. Ah, quelque chose, une connaissance à avoir. Dans les sciences du Usul, les savants ils prennent souvent cet exemple pour nous dire, pour nous parler de ce qu'on appelle al-'am alladhi urida bihi al-khass. Vous savez, dans les textes, il y a ce qu'on appelle al-'am, le global. Et il y a al-khass, le particulier. Si je te dis telle personne, Zayd a fait telle chose, ça c'est particulier, ça parle d'un individu. Si je te dis les gens ont fait, ça c'est global. Wadih? Tayyib. Et ils disent quelquefois il y a des globalités dans les textes, il faut faire attention. C'est global, mais en fait ça concerne que certaines personnes. Toi tu vas le lire, tu vas dire bah, les gens, c'est les gens. Donc sous-entendu, tous les gens. Te disent non, quelquefois Allah Azza wa Jal ou les hadiths ils peuvent désigner quelque chose, exprimer quelque chose de global, et pourtant ça signifie uniquement une catégorie de gens ou certaines personnes, ou peut-être même qu'un seul individu. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde à le faire. Il y en a, ils prennent le texte, ils disent bah quoi, le dalil il est là, la preuve elle est là, c'est clair, regarde, lis le Coran, lis le hadith. Ah, va voir derrière ce qui en est dit. Qu'est-ce que le texte il veut vraiment exprimer? Parce que quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم, ceux à qui les gens ont dit, ils sont en train de se rassembler pour vous, contre vous. Deux fois Allah il utilise le mot nas, les gens. Ceux à qui les gens ont dit. C'est quels gens qui leur ont dit? C'est certaines personnes, et en particulier des hypocrites qui viennent pour leur faire peur. C'est pas tous les gens. Et Allah dit que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les gens sont en train de se rassembler contre vous. Pourtant, c'est pas tous les gens qui se rassemblent contre, c'est juste la ville de la Mecque. Et donc, c'est quoi? C'est une globalité à travers laquelle on exprime quoi? Juste une catégorie de personnes. Wadih? Tayyib. Ala kulli hal. Nous, on a parlé de tout ça pour rappeler la position de ces femmes médinoises qui ont été à la hauteur, comme Nusaybah bint Ka'b, radiyallahu anha, Umm Sulaym, Umm Salit, Aisha, Fatima, Hamna bint Jahsh. À présent, on arrive à la dernière étape de la bataille de Uhud. Mais avant cette dernière étape, on expliquera plus tard comment elle va s'illustrer, cette dernière étape. La dernière étape, ce sera tout simplement comment réussir à sortir à sortir du champ de bataille de Uhud avec le moins de dégâts possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, à présent, c'est la seule chose à laquelle il réfléchit. Comment le sauver le plus de compagnons possible? Mais ça, on va l'expliquer un peu plus tard. Pour l'instant, aujourd'hui, juste avant ça, on va s'attarder sur des derniers éléments qu'on n'a pas encore vus qui se passent juste avant la retraite des musulmans vers la montagne de Uhud. La première chose, c'est le cas de Utba ibn Abi Waqqas. Utba ibn Abi Waqqas, comme son nom l'indique, c'est le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est un compagnon, un des premiers convertis à l'islam, il fait partie des émigrants, des compagnons de Mecca, des muhajirines, et il fait partie d'un des tout premiers convertis à l'islam. Certains le citent dans les tout premiers, selon certains historiens, il fait partie des 6 premiers, selon d'autres, il fait partie des 8 premiers, dans le groupe des 6, dans le groupe des 8, etc. En tous les cas, Sa'd ibn Abi Waqqas fait partie des tout premiers compagnons. Et il a un frère qui s'appelle Utba. Nous, on a déjà cité Utba ibn Abi Waqqas. On a dit qu'il faisait partie de qui? C'est que lorsqu'on avait posé une question, quand le professeur Sam avait été gravement blessé dans la bataille de Uhud, on avait posé plusieurs questions. On avait dit quelles sont ses blessures. D'abord, est-ce que les textes qui parlent de ses blessures sont authentiques? On avait posé 6 questions importantes. Première question, est-ce que les blessures sont... Est-ce que cet événement est authentique? On a dit oui. Il y a des récits authentiques dans Bukhari, dans Muslim et d'autres qui démontrent que le professeur Sam a vraiment été blessé à Uhud. Donc, ce n'est pas juste des histoires d'arrêt, ça c'est vrai. Deuxièmement, par quels moyens, par quelles armes? On avait expliqué. Il y avait les épées, il y avait les flèches, il y avait les trous, les pièges qui avaient été creusés, les pierres qui lui ont été lancées. À la kulihal. Quelles sont les blessures? Je les ai rappelées tout à l'heure. Qui sont les personnes? C'était la quatrième question. Qui sont les personnes qui l'ont blessé directement? Est-ce qu'on a des noms? On veut des noms, comme dirait l'autre. Et parmi les noms qu'on avait cités, les deux plus importants qu'on avait cités, qui reviennent dans la plupart des textes, c'est Ibn Qami'a et Utba ibn Abi Waqqas, le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas. Naam. Sauf qu'on avait dit que ces textes-là, les blessures, elles ont été authentifiées. Mais que c'est un tel ou un tel, ça, on n'a pas d'authenticité sur ces textes. On a les textes, mais ils sont faibles. Et donc le texte qui dit qu'Utba ibn Abi Waqqas a blessé le professeur Asselin, c'est un texte qui n'a pas été authentifié. Et donc ces textes qui nous disent que le Utba ibn Abi Waqqas a blessé le professeur sallam, il existe mais il est faible. Donc nous on l'a cité, mais on a précisé qu'il est faible. Et on a même un souci avec Utba ibn Abi Waqqas. Quand on refait des recherches sur sa biographie, on a des biographes qui le citent comme étant, comme on l'a dit, faisant partie de ceux qui ont directement blessé le professeur sallam. Et on a d'autres textes qui le citent comme étant un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a même cette problématique. Les historiens ne sont pas d'accord entre eux pour dire est-ce que Utba ibn Abi Waqqas fait partie des idolâtres et il est mort en tant qu'idolâtre ou il est mort en tant que musulman compagnon. Ce qui apparaît le plus probable, selon la plupart des historiens, c'est qu'il est mort idolâtre. Mais il y a certains historiens qui précise qu'il serait mort musulman. Et donc, qu'il n'aurait rien à voir avec cette histoire d'avoir blessé le professeur Sam, etc. En tous les cas, il y a un texte chez Ibn Ishaq qui nous dit quoi? Qui nous dit que Utba ibn Abi Waqqas il va donc blesser le professeur sallam, ça on a parlé de ce texte-là. Mais il y a un autre texte, toujours chez Ibn Ishaq, qui dit que Utba ibn Abi Waqqas va être tué à Uhud. Par qui? Au début, le texte nous dit que son frère, Sa'd ibn Abi Waqqas, veut à tout prix trouver son frère, parce qu'il vient de blesser le professeur sallam. Et parce que, le texte nous dit, parce qu'il le considère comme quelqu'un de très mauvais, qui a un très mauvais comportement, qui a toujours fait du mal autour de lui. Et donc il voudrait, selon cette version, profiter de la bataille de Uhud pour, entre guillemets, attraper son frère et lui donner une bonne leçon, comme dirait l'autre. Sauf que finalement, il ne va pas la voir, mais c'est le compagnon Hatib ibn Abi Balta'a qui va le retrouver sur le champ de bataille et qui va le tuer. Cependant, ce texte, quand on recherche, quand on fait des recherches sur ce que les spécialistes des chaînes de narration ont dit sur sa chaîne de narration, c'est qu'ils nous disent Isnaduhu da'if. Isnaduhu da'if. Sa chaîne de transmission, elle est faible. Donc, Allahu a'lam, on n'en sait rien. Cependant, il y a une phrase dans ce texte qui est authentique. C'est que le texte précise que donc Utba ibn Abu Waqqas blesse le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite il va être tué par Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. Sauf que le texte précise que lorsqu'il va blesser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire ishtadda ghadabullahi ala qawmin dammaw wajha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ishtadda ghadabullahi ala man damma Wajha Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La colère d'Allah est grande contre des gens qui ont ensanglanté le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. La colère d'Allah contre ceux qui ont fait couler le sang du visage de leur prophète, la colère d'Allah elle est grande contre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ce texte, il l'aurait dit au moment où Utba va le blesser. Sauf qu'on a dit, nous, ce texte, il n'est pas authentique. Mais on avait parlé lors de la blessure du professeur Sallam, justement, c'était la sixième question, dans les six questions qu'on avait posées pour les blessures du professeur Sallam, comment le professeur Sallam a réagi? Comment le professeur Sallam a réagi? On a dit, parmi ses réactions, c'est celle-là. Ishtadda ghadabullahi ala man fa'ala kada wa kada. Et ça, cette phrase, elle est authentique. Pourquoi elle est authentique? Parce qu'on a un texte dans le Bukhari, dans l'authentique de le Bukhari, qui nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, mais elle ne précise pas Utba ou Ibn Qami'a. Elle nous dit, le texte authentique de le Bukhari, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Il a dit, Ishtadda ghadabullahi ala man dammaw wajha nabiyyihim. Et dans ce texte plus précisément de le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre là-dedans qu'il a perdu. Et il dit à ses compagnons, ishtadda ghadabullahi ala man fa'ala bi nabiyyihim hadha. La colère d'Allah est grande contre ceux qui ont fait contre leur prophète ceci. Et il montre là-dedans qu'il a perdu. Et ça, c'est un texte qui est dans le Bukhari. Donc certains pourraient ne pas comprendre. Bah, comment ça se fait? Tu me dis le texte, il est faible. Mais dedans, tu prends une phrase et tu me dis elle est authentique. Si la chaîne de transmission elle est faible, elle est faible. Oui, mais c'est parce que cette phrase, toute seule, on la retrouve dans un autre texte qui est authentique. C'est pour ça qu'on peut rendre juste cette phrase authentique. Et ça, c'est comme ils disent, shoghl al-muhaddithin. C'est le travail des savants du hadith. Kul wahadu shoghlou. Chacun son travail, chacun ses compétences. Ala kulli hal. Ça, c'est ce que le texte nous dit à propos de Utba ibn Abi Waqqas. Le deuxième cas qu'il faut citer avant de parler de la fin de la bataille de Uhud, c'est le cas de l'Harith ibn Suwayd ibn Samit. L'Harith ibn Suwayd ibn Samit, selon les historiens, c'est un hypocrite. Alors la même chose, c'est un texte qui est chez Ibn Ishaq et qui est faible. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte nous dit que l'Harith ibn Suwayd ibn Samit, il est hypocrite, donc. En apparence, il montre qu'il est musulman, mais en réalité, il ne l'est pas. Et à la bataille de Uhud, nous, on a déjà expliqué que le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, est venu dans l'armée de Uhud, et en plein milieu du trajet, il a dit, « Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Mais il n'y aura pas d'affrontement. Vous savez bien que les Quraysh, ils ont peur de nous. Allez, rentrons à Médine. Ne vous inquiétez pas, il ne va rien arriver. » Et il cherchait juste une excuse pour rentrer. Et il a réussi à conduire avec lui 300 hommes. Et dans ces 300 hommes, il y a des hypocrites, mais il n'y a pas que des hypocrites, il y a aussi des gens qui se sont fait avoir, qui ont peur. Chacun a son excuse. Et certains sont hypocrites. Et Al-Harith ibn Suwayd ibn Samit, On nous dit qu'il est hypocrite et pourtant lui il l'est, il va jusqu'au bout. Pourquoi il va jusqu'au bout? Parce que selon ce texte qui n'a pas été authentifié, il profite de la confusion d'une guerre sur le champ de bataille pour tuer un compagnon, Al-Mujadhar ibn Ziyad, radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce que lui, il reproche Al-Mujadhar ibn Ziyad d'avoir tué son père, Suwayd ibn Samit, pendant la Jahiliya. Vous vous rappelez qu'on avait dit que pendant la Jahiliya, avant que le professeur Hassan arrive à Médine, il y avait deux tribus qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre. C'est deux tribus arabes qui peuplent principalement Médine. Les Aous et les Khazraj. Ils n'arrêtaient pas de se faire la guerre. Et Suwayd ibn Samit, il fait partie, c'est un des chefs des Médinois. Et pendant ces guerres tribales, il va être tué. Et donc, cet homme, il fait semblant, vous imaginez, il fait semblant de se convertir à l'islam, et il entend qu'il y a la bataille de Uhud, et lui, en vérité, alors que tout le monde s'est réconcilié, qu'ils ont oublié, qu'ils ont tout, ils ont enterré la hache de guerre. Il y avait du sang entre eux, des gens qui ont tué leur propre famille, mais ils ont décidé de s'unir autour du professeur Hassan, de lui prêter serment d'allégeance et d'oublier tout ça. C'est pas chose facile à faire. Et lui, il a pas réussi à passer le dessus. Il a juste fait semblant et il a attendu la bonne occasion pour venger son père. Non. Et ça, c'est pas facile, Yann. Le fait de pardonner, d'essayer de tout oublier sans demander une réparation, parce que c'est ce qui a été fait à Médine. Pour mettre un terme aux guerres, ils ont été d'accord pour se soumettre au professeur Salem et d'oublier tout ce qui s'est passé auparavant. Il y a des morts entre eux. Et ces guerres, elles ont duré, parce qu'à chaque fois, il y avait des morts, et donc à chaque fois, ça appelait à la vengeance, et à chaque fois, ça continuait. Et la seule chose qui a pu mettre fin à ça, c'est que le professeur Sim est arrivé et qu'il les a encouragés à faire table rase du passé. Et ils l'ont fait. Non. Et c'est la seule chose qui permet aux musulmans de triompher. C'est s'ils sont unis. Rien d'autre. Rien d'autre. Et dans l'histoire, les exemples sont nombreux. Les fois où les musulmans triomphent, les fois où les musulmans sont à l'apogée dans leur civilisation, c'est lorsqu'ils sont unis. Et un des meilleurs exemples, c'est l'Andalousie musulmane. Quand elle est unie autour d'un seul calife, tout va bien. Pendant les Mouahidines, pendant le Mourabitin, pendant le règne de Abdurrahman l'Amawi, de la dynastie des Omeyyades. Et quand il y a eu Moulouk Tawaif, les rois, une vingtaine de rois différents, de royaumes différents en Andalousie, bien c'est là que les rois catholiques ont pu gagner du terrain jusqu'à chasser tous les musulmans de chez eux, parce que la plupart c'est des Espagnols qui sont musulmans de père en fils depuis plusieurs siècles, pendant 850 ans. Non. Et inversement, quand l'union elle est là, khlas. Non. On raconte que, c'est pas on raconte, ça fait partie des faits historiques, ce qu'on appelle la guerre du Rif dans le nord du Maroc, quand c'était colonisé par les Espagnols, le chef des résistants, Mohamed ben Abdelkrim al-Khattabi, rahimahullah, il va d'abord, dans un premier temps, rassembler les tribus rifaines qui, à cette époque-là, se font la guerre. La même chose, comme on parle de l'Aous et le Khazraj. Il y a des morts entre eux, Yanni. Avec les haches, avec un sujet, il y a un anthropologue français, Auguste Moulieras, qui a écrit un livre. Et il a fait son travail d'anthropologue, donc il est parti dans les années 1800. Il a visité la plupart des tribus dans le nord du Maroc, donc de Tanger jusqu'à Oujda. Et il fait dans ce livre, vous pouvez le trouver sur internet en français, hein, c'est un anthropologue français. Et il fait une étude anthropologique de chaque tribu. Non, mais quand il arrive dans certaines tribus du Rif, il dit, cette tribu-là, d'abord j'ai dû demander, entre guillemets, une autorisation d'y entrer. Parce que ils ne laissent pas les étrangers rentrer. Enfin, et deuxième chose, il explique que le temps où il laisse les gens rentrer, c'est uniquement le jour du marché. Parce qu'en fait, au début, il laissait personne rentrer, mais ils se sont rendus compte que le jour du marché, bah, s'ils laissent personne rentrer, il n'y a pas de marchandises d'extérieur qui viennent, donc au bout d'un moment, ils se mettent eux-mêmes en blocus. Donc ils autorisent les va-et-vient des étrangers uniquement le jour du marché. Donc il a dit, j'ai profité du jour du marché pour y aller. Et il a dit, contrairement aux autres tribus, je n'ai pas rencontré de vieillards là-bas. Et les gens, ils meurent très tôt là-bas. Parce que souvent, ils meurent d'une mort brutale. Il y a quelqu'un qui l'a tué d'un coup de hache. Il dit, la plupart des gens ont des blessures où ils boitent, où il leur manque une oreille, où il y a une cicatrice au plein milieu du visage. Il y en a pour décrire, il y en a l'état à l'époque. Pourquoi je parle de ça? Donc c'est pour me remettre le contexte. Et la chose qu'avait compris Mohammed bin Abd al-Khattabi, rahmahullah, c'était que la première chose qu'il devait mettre en place, c'est l'union. Et c'est ce que les Rifains appellent encore, parce qu'avant, pour compter les dates, ils avaient pas ils comptaient pas comme maintenant, ils donnent des noms aux années. Et ils appellent cette année-là Am Smaha, l'année du pardon, 1920. Les historiens disent que c'est 1920, c'est lorsqu'il a réuni tous les chefs de tribu et il leur a demandé de faire table rase du passé, d'oublier cette volonté de vengeance pour enfin s'occuper de la force occupante, c'est-à-dire les Espagnols, et c'est ce qui va donner en 1921 à la victoire de la bataille de Anwal, parce qu'ils étaient unis et ils vont réussir à mettre dehors les colons espagnols pendant 5 ans et il y aura l'indépendance dans le Rif. Pourquoi je suis parti là, moi? Donc l'union entre les Haous et les Khazraj. On avait déjà parlé, en vérité, cet homme qui était un hypocrite selon ce texte, Al-Harith ibn Suwayd ibn Samit, si vous vous rappelez, il y a très longtemps, on avait parlé de son père Suwayd ibn Samit. Et on a dit que son père Suwayd ibn Samit a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a parlé des tout premiers Médinois qui viennent rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, Suwayd ibn Samit, il est venu pour demander des alliances à Quraysh contre la tribu d'en face à Médine. Les Quraysh vont refuser et le prophète Hassan va profiter de sa venue pour aller le voir et l'appeler vers l'islam. Et lui, il va lui dire, moi j'ai meilleur que toi. Il va dire, qu'est-ce que tu as? Il va dire, « Indi majallatu Luqman ». C'est-à-dire, j'ai les sagesses de Luqman. Les sagesses de Luqman, je les ai apprises par nos anciens. Le prophète Hassan va dire, fais-moi écouter. Il va lui faire écouter. Donc en fait, c'est des sagesses, des bonnes choses à faire, des recommandations qui sont dites avec des rimes, en fait. Et le professeur Hassim va dire, tes paroles sont bonnes. Ce que tu as là, ce sont des bonnes paroles. Mais ce que j'ai moi, c'est mieux parce que ça ne vient pas d'un homme. Ça vient directement d'Allah. Il va lui dire à son tour, alors fais-moi écouter. Il va lui faire écouter des sourates du Coran. Il va lui réciter des sourates du Coran. Et cet homme va dire, certes, ce que tu as toi, c'est beaucoup mieux. Suwayd ibn Samit. Et on avait dit à l'époque, si vous vous rappelez, quand on a parlé de lui, on a dit, les historiens, ils ont un doute, est-ce qu'il s'est converti à l'islam ou pas, parce qu'il va rentrer à Médine, et il va mourir. La seule chose dont on est sûr, c'est que les Médinois disent, depuis qu'il est parti à la Mecque et qu'il est revenu, son mode de vie a changé. Il ne participe plus au rite des idolâtres, il ne fait plus les drôles de choses que les idolâtres font, mais il n'a jamais clairement dit, je suis musulman, pour qu'on puisse dire, c'est sûr, il est mort en tant que musulman. Eh bien, c'est le père de cet homme qui est hypocrite et qui va profiter du champ de bataille de Uhud pour tuer, pour venger son père. Alors que son père lui-même avait commencé à changer de vie. Non. En tous les cas, ce texte qui nous parle de Smitul Harith ibn Suwayd ibn Samit, il n'est pas authentique, donc on n'a pas de certitude. Non, si on va jusqu'au bout de ce texte qui n'est pas authentique, il nous dit que par la suite, après la bataille de Uhud, cet homme, donc il va tuer, déjà dans la bataille de Uhud, il va profiter pour tuer un musulman, le Mujaddar ibn Ziyad, et ensuite il va prendre la fuite et il va se réfugier à Mecca. Et par la suite, il va finalement être vengé et tué par des musulmans. Mais on a dit, ce texte, il n'a pas été authentifié. À présent, on arrive au moment où le professeur Salem doit prendre une décision. Comment faire? Alors qu'il essaye déjà de sauver sa vie, que beaucoup de musulmans, comme on l'a dit, tombent à côté de lui, comment faire pour sauver le plus de musulmans possible? Et ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bidnillahi tabarak wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.